Mes frères bien-aimés, ce matin, nous avons devant nous une femme adultère. Autrement dit, une femme qui a commis un de ces péchés que la loi mosaïque punissait de la mort, c'est-à-dire un péché appartenant au degré le plus grave de la morale juive. Malgré cela, le Christ veut lui éviter la peine capitale, qui revêtait alors l'aspect épouvantable de la lapidation, et je crois que nous aurions tous fait ainsi. Par contre, ce qui est tout à fait inattendu, c'est la manière avec laquelle le Christ boucle cette affaire. Une fois que tous les abjects pharisiens sont partis, il ne parle quasiment pas à la femme adultère, si ce n'est pour lui dire qu'il ne la condamne pas, on croit rêver. Dieu, le juge suprême, qui ne condamne pas l'adultère, et qu'elle doit dorénavant essayer de ne plus pécher. Et puis, plus rien. Quelle simplicité, n'est-ce pas? En une simple parole, le Christ pardonne l'impardonnable. Ce qui est sûr, c'est que nous n'aurions pas du tout procédé de la sorte. Sûrement que nous aurions tout d'abord demandé à la femme adultère de nous en dire davantage sur sa situation et sur ce qui venait de se passer, pour comprendre les tenants et les aboutissants et mesurer ainsi sa culpabilité. Nous aurions ensuite essayé de lui faire percevoir la gravité de son acte, pour qu'elle regrette à voix haute ce qu'elle a fait et qu'elle promette de ne plus jamais recommencer. Enfin, nous aurions sauté sur l'occasion pour la ramener dans le giron de l'Église, en lui expliquant pendant plusieurs minutes l'importance de la grâce, des sept sacrements, de la communauté chrétienne, etc. En un mot, nous lui aurions donné le pardon, enfin peut-être, mais après une longue discussion et en étant bien assuré qu'elle veuille changer de vie. Force est de constater que le Christ a réagi aux antipodes, lui qui a donné son absolution rapidement et sans condition. Eh bien, mes frères, il faut qu'entre nous, ce soit la même chose. Il faut que nous nous demandions pardon, puis que nous nous accordions le pardon avec une extrême facilité. Quand quelqu'un vient nous demander pardon, arrêtons d'ergoter pendant des minutes entières pour bien faire comprendre à l'autre que ce qu'il a fait est dramatique, que nous avons été profondément offensés et que c'est donc une immense libéralité de notre part que d'accorder notre pardon. En faisant cela, nous ne faisons que nous mettre encore une fois au centre du débat. Arrêtons avec ça. Il faut que le pardon soit aussi facile, rapide et récurrent qu'un coup de chiffon sur la table. Il est clair, mes frères, que ce n'est pas facile de pardonner, mais c'est là ce que le Christ nous demande. Si nous voulons être vraiment ses disciples et si nous voulons que nos églises soient de nouveau bondées, nous n'avons pas le choix. Il nous faut pardonner à tour de bras, car ainsi le mal est détruit, le démon enchaîné, et l'amour circule enfin entre nous et le Christ reprend ses droits dans nos cités. Mes frères, si nos contemporains fuient la Sainte Église catholique, ce n'est pas de la faute du bon Dieu qui continue sans se lasser de l'irriguer de sa grâce. Mais c'est de notre faute, nous qui ne sommes pas des saints et qui par conséquent n'attirons pas les âmes, mais qui les laissons de marbre. Il faut que nous soyons rayonnants, chers enfants de l'Église. Et pour cela, il n'y a qu'une seule solution, pardonner aux autres, même s'ils ne nous le demandent pas, pour que nous soyons libres du mal qu'ils nous ont fait et que nous volions ainsi de toutes nos ailes dans le ciel de la joie. Mais attention, mes frères, pour arriver à cela, il faut vraiment pardonner, c'est-à-dire redonner sa confiance à l'autre et oublier les méfaits qu'il a commis. Oh, j'ai bien conscience que cela ne se fait pas en un claquement de doigts. Redonner sa confiance et oublier les méfaits, voilà un travail de longue haleine. D'autant plus que notre être est bien fait. Quand il a eu mal quelque part, il s'en souvient et il rechigne à y retourner. Mais il n'empêche, nous devons nous efforcer d'aller dans le sens du pardon. Même si nous trouverons toujours mille raisons de ne pas pardonner, le Christ les a eues aussi ces mille raisons, mais il n'en a pas tenu compte. Pour autant, même si nous voulons imiter le Christ, dans un premier temps, il se peut que nous n'arrivions pas à pardonner. Que voulez-vous, quand une blessure nous fait mal, elle nous fait mal. Nous ne pouvons pas dire « Bon, maintenant, je décide de ne plus avoir mal. » Non, la douleur persiste. Eh bien, dans ce cas, récitons la prière du Christ en croix. Père, pardonne-leur. Demandons à Dieu de pardonner à notre place, car nous nous en sentons incapables. Et même si nous aurons alors l'impression de ne donner qu'un pardon de surface, sans que le cœur y soit vraiment, ce sera déjà une grande victoire. Mais la bataille ne fait alors que commencer, car le démon va nous attaquer afin que nous revenions sur notre décision de pardonner. Et pour cela, il va provoquer notre mémoire et notre imaginaire. Vous savez sûrement que notre âme est dotée de plusieurs facultés, dont les principales sont l'intelligence, la volonté, la mémoire et l'imaginaire. En ce qui concerne l'intelligence et la volonté, à part dans le cas d'une possession, le démon ne peut pas s'y attaquer. Par contre, vis-à-vis de la mémoire et de l'imaginaire, il peut s'y frotter, car ces deux facultés sont en quelque sorte ouvertes au monde des esprits. Commençons par la mémoire. Quand on y songe, on est parfois étonné à quel point elle semble idiote. Quand on veut se rappeler de quelque chose pour un examen, elle ne s'en souvient pas. Et quand on veut oublier quelque chose de douloureux, elle nous le ramène toujours à l'esprit. En fait, ce n'est pas de sa faute. Pour ce qui est des difficultés à apprendre, c'est là une déficience qu'elle possède à cause du péché originel. Et pour ce qui est des mauvais souvenirs qui reviennent, là encore, ce n'est pas elle qui en est la cause, mais le démon, qui prend un malin plaisir à nous titiller. Par exemple, notre mère nous a dit une parole mortifère dans notre enfance. « Tu ne feras rien de ta vie !» Et voilà que cette parole revient très souvent à notre esprit, alors qu'on n'y pense même pas, alors qu'on fait de la cuisine. La blessure d'enfance réapparaît alors. Elle nous démange, on la gratte, on la fait saigner, et voilà qu'à 50 ans, elle est toujours ouverte et fait toujours aussi mal. Ainsi, sans le vouloir, nous entretenons des haines durant toute notre existence. C'est également ce mécanisme qui engendre les fameuses histoires familiales qui se transmettent de génération en génération. Le démon les fait remonter régulièrement à la surface afin que tous les membres de la famille soient au courant et que l'on se déteste les uns les autres. Et puis, le démon joue aussi avec notre imaginaire, en lui faisant croire des choses complètement fausses. Votre enfant vient vous demander pardon parce qu'il a volé un paquet de bonbons, mais le démon vous persuade que votre enfant n'est pas sincère parce qu'il ne vous regarde pas droit dans les yeux, et alors vous ne lui accordez pas votre pardon. Ou encore, votre mari vient vous demander pardon pour s'être énervé tout à l'heure sur votre conduite, mais le démon vous persuade qu'il le fait pour vous demander autre chose par après, et alors, vous ne lui accordez pas votre pardon. Eh bien, mes frères, dans les deux cas, il faut que nous dominions de nouveau notre mémoire et notre imaginaire qui sont aux mains du diable. Mais attention, il faut le vouloir vraiment, car il va falloir se battre. On peut déjà le faire en raisonnant un peu ces deux facultés et en disant par exemple à sa mémoire « C'est vrai, ma mère a eu cette parole méchante une fois dans mon enfance. » Cela s'est passé et on ne peut pas le changer. Mais maintenant, cela n'a plus de réalité en soi. C'est un événement passé. Ce n'est pas un événement présent. Donc, j'arrête de me pourrir la vie avec ça. Mais ce qui permet surtout de reprendre le dessus, c'est de dire à notre mémoire ou à notre imaginaire, dès qu'un mauvais souvenir ressurgit ou dès qu'une suspicion imaginaire fait son apparition, « Non mais oh !» Qui est-ce qui commande ici? C'est moi. Va-t'en maintenant avec ce souvenir, avec cette suspicion. J'y penserai ou j'y songerai quand je voudrai. Mais actuellement, c'est non. Oust, c'est moi qui commande. Mémoire, imaginaire, tu n'as pas le droit de faire n'importe quoi. Et il peut être bon alors, pour bloquer ce processus démoniaque, d'utiliser le petit exorcisme suivant, que tout esprit loue le Seigneur. Et voilà que petit à petit, le démon perd du pouvoir et nous en gagnons. Quoi qu'il en soit, mes frères, soyons bien clairs. Il sera toujours difficile de pardonner et ce sera toujours un énorme effort de volonté qu'il faudra fournir. Le pardon ne va jamais de soi. D'autant plus que le démon se bat alors contre nous comme jamais. Car il sait très bien que par le pardon, nous tuons son action dans l'œuf. Alors que sans pardon, Le mal commis par un homme peut se transmettre de génération en génération et altérer ainsi l'existence de centaines de personnes. Eh bien, faisons-lui des pieds de nez à Satan, à longueur de journée, en pardonnant à tout le monde, surtout en famille, je vous en supplie, entre mari et femme, entre frères et sœurs, entre parents et enfants, pardonnons de bon cœur. Ainsi, nous ne permettrons pas au mal de fleurir entre nous. Vous voulez une belle vie, écrivait Dostoïevski, eh bien, pardonnez. Car tout ce qui est vrai et beau respire le pardon. Amen.